C'était avec Mathieu Chédid sur la première tournée que j'ai fait avec lui, c'était la tournée Hill. On avait une Gibson, qui est une guitare qui appartient à Mathieu, qu'il a décorée avec un revêtement un peu brillant, etc., pour donner l'effet paillette. Bon, je passe un peu les détails du look, mais ça restait quand même que c'était une guitare de 1962 qui sonne extraordinairement bien, sur lequel j'ai amené une modification au niveau de l'électronique. On a gardé le micro original, on l'a mis de côté, et je lui ai mis un micro d'une marque qui permettait de plus avoir un bruit de fond dû au micro de ces époques-là. Donc j'ai mis un micro beaucoup plus moderne, mais qui se prêtait au jeu du spectacle sur lequel on était en train de travailler, et il fallait pas qu'on ait ce genre de défaut. Donc je me suis dit, pendant la tournée, sur cette guitare, on va remplacer le micro, on mettra ça, et à la fin de la tournée, je remettrai le micro original. Je te donne un exemple du genre de travail que j'ai à faire sur une tournée. On a commencé à faire aussi de la mise en scène. Et quand Mathieu partait en mise en scène sur son spectacle, il a dit, bah tiens, tu vois, à cet endroit-là, j'aimerais bien que ma guitare, elle arrive du ciel, etc. Enfin, tu vois, là, on est dans du spectacle. Sauf qu'on parle d'une guitare qui est de 1962, c'est-à-dire que si tu pètes le manche, tu te dis, là, c'est quand même pas cool. Et en fait, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, on l'a entendu bigner un peu dans les ponts, quand elle est descendue, et elle n'a pas cassé, hein, il n'y a pas eu de souci, mais on s'est regardé, puis on s'est dit, on va pas mettre cette guitare extraordinaire dans un pont, on a 50, 60, 80 dates à faire, c'est sûr qu'à un moment, il va arriver quelque chose. Quand tu as un instrument de collection, tu essaies de le préserver, même si c'est un plaisir absolu pour un artiste comme lui d'utiliser sa Stratocaster qui est de 1964, qui fait toutes ses tournées, c'est un instrument exceptionnel. Quand tu as cet instrument dans les mains, il se passe quelque chose que tu retrouves pas sur d'autres instruments.
Et à la guitare, c'est mieux pour toi ?
T'as pas eu le temps. Désolé.
Merde, pardon. C'est...
Vas-y, on fait tout. Encore.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une copie d'une SG de 62, fabriquée de nos jours. Les bois sont différents. On a amené les mêmes modifications, hein. Le même look, le même micro. En fait, le micro que j'ai mis sur sa guitare originale pour la tournée, ben, c'est le même micro que j'ai mis sur la petite copie destinée à être mise dans les ponts. En fait, j'ai fait une copie un petit peu des paramètres de la première sur une guitare qui coûtait entre 700 et 1000 balles. C'était toujours beaucoup moins qu'un instrument de collection comme sa SG de 62 qu'on préférait préserver. Et quelques dates plus tard, mais en fait, la guitare, il l'a eu dans les mains quand elle est descendue des ponts. Et elle lui a échappé des mains et le manche s'est cassé. Je l'ai recollé une première fois. Je suis revenu avec. Et là, pas de chance. Elle retombe, elle recasse. Et je fais, dis donc, on n'a vraiment pas de chance avec cette guitare. Et on l'a recollé. Après, ça s'est super bien passé.
C'est super. La caisse casse, c'est possible ? J'ai l'impression d'à peine l'entendre. Ah yes, merci, on va essayer un truc.
Tu m'étonnes que Mathieu Chédid adore travailler avec un luthier comme Sylvain. Ce garçon, il est génial, inventif, réactif, hyper doué de ses mains. Il est capable de trouver des solutions techniques dans le feu de l'action, de se mettre tout entier au service des musiciens. La perle rare, quoi. Moi, ce monde de la scène, il me fascinait. Vivre ça, le trac, l'euphorie du show, acclamé par des milliers de fans. J'avoue que j'en étais loin, très loin. Pour l'instant, rappelez-vous, jour numéro 2. Je suis dans l'atelier de Sylvain, nu comme un ver, débraillé, sans corde, ni clé, ni micro, sur la table d'opération. En fait, j'étais presque revenu aux origines. C'est ça, je n'étais plus qu'un vulgaire bout de bois, avant l'usage de la parole. Me voir comme ça, ça a donné à Jean-Baptiste l'envie de poser une question. The question. En fait, c'est quoi une guitare ? Comment ça se fabrique ?
Je peux faire un résumé synthétique de la fabrication d'une guitare, mais pour moi, on n'apprend rien en faisant ça, en fait. Tu peux pas tout synthétiser. Il faut des sources, quoi. Il faut que tu aies les bases pour pouvoir les synthétiser. Pour moi, fabriquer une guitare, c'est pas que fabriquer une guitare. Au début, quand j'ai commencé à fabriquer une guitare, je suis parti sur ce que j'aimais. Et moi, mon amour, c'était de prendre une guitare électrique, pas une guitare acoustique. Je m'éclate avec une guitare électrique. Donc, j'ai appris à fabriquer des guitares électriques. Et puis après, je me suis intéressé à qui a fabriqué des guitares électriques. J'ai toujours détesté l'histoire quand j'étais à l'école. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne l'histoire comme je l'étudie aujourd'hui. Parce que, en fait, quand on te parle de Vercingétorix ou de Napoléon, t'en as rien à foutre, en fait. Quand t'étudies l'histoire, il y a l'homme et l'histoire. Et après, il y a les étoiles, les paillettes et toute la merde qu'on a foutu dedans.
D'accord.
Et je suis parti. Non,
là, tu vas.
Non, mais c'est parce que c'est important. Pour résumer, Léo Fender, c'était un grand monsieur dans la fabrication des guitares électriques. C'est lui qui a amené l'électronique des amplis poussée un peu à l'extrême, tu vois. Le mec, c'était un génie de l'électronique. Moi, quand j'étudie quelque chose, du coup, il me faut l'histoire qui va avec. Et plus tu avances, plus tu recules dans le temps. Et je me suis arrêté à Léo Fender parce que, en fait, j'ai fabriqué des guitares, donc pour m'inspirer de guitares qui étaient fabriquées dans les années 90, des très grandes guitares. Et puis d'un coup, tu fais, mais attends, comment ils ont fait pour fabriquer ces guitares? Puis tu t'aperçois qu'en fait, finalement, c'était des machines qu'ils avaient rachetées à Léo Fender dans les années 70 et ainsi de suite et blabla et tout ça. Donc, tu étudies Léo Fender, mais qui sait vraiment? Et puis tu commences à étudier un peu son histoire, et puis ainsi de suite. Et là, tu recules, pour arriver à la base de la guitare électrique.
Ça, c'est ce que tu n'apprenais pas dans les écoles, justement ?
Exactement. On ne se sert pas de ce qu'on étudie aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé avant. Je pense que ce qui serait important, c'est de donner un peu de culture aux gens pour qu'ils aient envie d'aller en savoir plus.
Et toc ! Moi aussi, j'en avais marre de mal connaître mes ancêtres, mon passé. Alors, j'avais décidé de m'y plonger. Comment est né le modèle SG ? D'où vient mon nom ? Pourquoi certains guitaristes m'adorent ? Jean-Baptiste et moi, on en a épluché des livres et des livres, jusqu'à tomber sur celui-là. Tiens, tiens.
Dis-moi, tu me parlais du poutre.
Oui.
Tiens, je te file ce livre-là.
Ouais.
Ouvre-le à la page 106, tu verras.
106. Alors.
Est-ce que tu peux lire ça, là ?
Cette partie-là ?
Oui.
Les Paul comprit que si, au lieu de poser un micro sur une caisse creuse, il l'insérait dans un morceau de bois solide, il résoudrait le problème du Larsen. Il se mit donc au travail dans les locaux d'Epiphone à Long Island. Attachant à un tronçon de poutre de 10 cm sur 10, deux micros de sa fabrication et le manche d'une Gibson. Ah bah tu vois, c'est exactement ça.
En fait, là, t'as une poutre,
ouais.
Et puis il a coupé la caisse en deux, il l'a remis de chaque côté de la poutre.
Et t'as vu un peu les gars, comment ils travaillaient?
Mais ça, c'était encore expérimental, parce qu'il y en a qu'une.
C'est ça qui est bien.
La Log, première guitare de Monsieur Gibson.
Et les gars, ils massacrent une guitare qui aujourd'hui coûterait, tu vois, on est dans les années 40.
Pas qu'une guitare, il en a massacré plusieurs. Hein.
Oui, bah j'imagine, mais enfin, bon, t'as vu tout ce qu'il a vendu en guitare,
oui, ça
monsieur
va.
Les Paul ?
Ça va, ça va.
C'est quand même la base du solid body qu'a fait la légende de Gibson.
La Fender Stratocaster de 1961.
Ça, c'est la guitare d'un artiste avec lequel je travaille. 61.
Ouais, quand on la voit comme ça, on n'a pas envie de l'acheter. En fait, c'est une super guitare.
Bah oui, alors c'est dur parce que... Au début, quand je jouais de la guitare, ce que je cherchais, c'était la beauté, tu sais, le truc hyper neuf.
Ah oui.
Puis après, tu regardes ce que les gars ont fait de leur guitare. Hein, elle est passée un peu dans une poubelle, celle-là, elle a été cramée.
Ouais, sauf que ça vaut une fortune.
Elles sont marquées. Elles ont une empreinte de la vie en plus, quoi.
La Broadcaster. Toute première guitare électrique des années 50.
Voilà, ça c'est...
Ah oui, c'est
moi,
ça.
C'est la guitare, quoi.
Ce dont tu me parlais l'autre jour. C'est la première guitare électrique. Enfin, c'est pas la première
c'est pas la première guitare électrique, mais en tout cas, c'est la première guitare électrique déjà de Leo Fender.
Qui est devenu Telecaster après, d'ailleurs, parce que le nom était déjà pris par...
Les batteries d'Ludwig.
Le côté Broadcaster a été interdit pour Leo Fender.
Ouais.
Ce qui a fait que, à un moment, il n'y avait plus de nom sur ces guitares.
Oui.
On les appelait les No-Caster, cette série-là d'ailleurs.
J'ai vu ça.
Ça n'a pas duré longtemps.
Ouais.
Du coup, elles sont devenues les Telecaster. Voilà. C'est ça le brevet en fait. Cette petite plaquette là, tu vois, avec les pontées et le micro. C'est un bloc intégral qui donnait une résonance. Et il avait comme ce qu'on appelait un cendrier, en fait, comme un capot en métal qui venait par-dessus. Qui donnait la résonance au son pour les micros. Et c'est le premier à avoir mis un aimant par corde.
Par corde, voilà.
Avec une bobine autour.
La mythique Martin D28, qui date des années 30.
C'est ma préférée.
Ah oui ?
Ouais, c'est la guitare que j'avais. J'adore cette guitare.
Celle-là, c'était la Nationale Réseauphonique, avec sa caisse tout en métal.
T'en as déjà joué ?
Le National ?
Ouais.
C'est un instrument qui est vraiment particulier, hein, au niveau du timbre, du son. Alors déjà, c'est une guitare qui est plus souvent utilisée avec un accordage particulier, sur lequel on vient utiliser le petit tube en verre.
Le petit tube pour faire des glissandis.
Tu vois, voilà, exactement.
Ouais.
Tu vois ? En fait, ils le disent bien, cette nouvelle guitare destinée toujours aux interprètes de musique hawaïenne. Là, on est bien avant Leo Fender, mais la musique hawaïenne, qui était quand même omniprésente, etc., ils utilisaient des instruments qu'il fallait entendre. Et le son métallique, la puissance du national permettait... Tu vois, un peu comme un cuivre, puisque là, tu es dans l'instrument avec du métal, le cuivre perce.
Apparemment, cette guitare, elle a été un peu désuète. Et c'est Mark Knopfler qui l'a relancée.
Probablement.
Dans Roméo et Juliette. Bon, après, il y a le toucher de Mark Knopfler.
Déjà,
quand même,
il y a le toucher du guitariste, qu'il en a fait, pourquoi il a utilisé cet instrument.
La fameuse Gretsch 6120.
J'aime bien les Gretsch.
De 1951.
T'en as joué aussi ?
Quand je dis j'en ai joué, moi c'est des instruments que j'ai eu à l'atelier en restauration ou que j'ai eu en tournée jouer.
Oui, mais du coup tu les connais.
Je les connais. J'en ai eu quelques-unes dans les mains, très très belles.
On va se remettre à la guitare ?
Oui, tout à fait. Non, on va aller à l'étage.
Ok.
J'étais pas mécontente de les revoir, ces deux-là. Ils étaient tellement plongés dans leur bouquin, je commençais vraiment à croire qu'ils m'avaient oublié.
Maintenant, la partie électronique. Alors, là, c'est une partie un peu plus délicate parce que le but étant de ne rien dessouder.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Là, je vérifie les références des micros.
D'accord, donc tu as soulevé la plaque ?
Ouais. Là, par exemple, j'ai un micro neck, là, micro manche, et ça, c'est micro chevalet.
D'accord.
Tu as remarqué qu'il y en a un qui est tamponné Gibson.
Oui.
et l'autre, il ne l'est pas. Moi, je pense que c'est peut-être un micro qui a été remplacé.
Oui.
Ça me paraît juste bizarre. Je vérifie ça. Ce que je vais faire, c'est retourner la guitare, enlever la plaque arrière et vérifier s'il y a eu une soudure de fait ou pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des soudures de fait dans cette guitare? Ça, c'est une soudure originale. Je le vois à l'œil que la soudure, elle est propre, elle est bien faite. Ça, pour moi, ça a été modifié. Le petit pâté de soudure qu'on voit ici en bas, là, ça, c'est pas fait en usine, ça.
Oui.
Il y a eu un micro qui a été défait. Soit le micro d'origine est tombé en panne, soit il a été remplacé parce qu'il lui plaisait pas. Ensuite, j'ai des annotations de la fabrication de l'instrument. Alors ça, SG standard de 91. Le corps, là, il a été estampillé standard 91. Donc la pièce, elle, a été fabriquée en 91. Il n'y a rien qui est bidouillé, là, tu vois. On a vraiment la partie originale. La seule chose qui me chagrine, moi, j'aimerais savoir pourquoi le micro, il n'est plus là. Pourquoi il n'est pas dans l'étui? Est-ce qu'il a été remplacé parce qu'il était en panne? Bon, on va se faire une petite recherche sur le net, tiens. Alors, micro Gibson, t'as au moins des refs ou des patentes. Là, tu vois, là, Gibson n'est pas écrit dessus, dans ceux-là. Parce que t'as des références de micros faits par Gibson, d'accord?
Oui.
Et puis après, les guitaristes...
Ils les font changer.
Ils les changent pour avoir un autre son, en fait, un autre grain. Le micro va avoir un petit peu plus de richesse, d'harmonique, etc. Voilà, c'est... Tu vois, nous, on a ça, là.
Oui.
OK.
C'est marqué Gibson, donc, dessus.
Tu vois, souvent, en fait, le neck, il est en rapport avec le bridge, c'est-à-dire que... Ils ne sont pas dépareillés, quoi. Ils sont forcément de la même année, etc. Tu vois, regarde. On devrait avoir ça, quoi. Je vois pas pourquoi on a un micro qui est différent. Alors, c'est peut-être un Gibson, plus ancien, d'ailleurs. Je sais pas. Je vais passer un petit coup de polish, là, justement, sur le vernis. J'en profite qu'on l'ait démonté pour la nettoyer avant de remettre la plaque. Je vais juste prendre ma petite crème GHS. Là. C'est une petite crème que j'utilise en tournée, ça, d'ailleurs. C'est des polish, j'en ai tellement. Et je l'aime bien. Il n'est pas trop agressif. Et ça respecte les vernis de cette époque-là.
D'accord.
Tu peux pas mettre n'importe quel produit hein, sur les vernis. Hein, parce que tu as différents types de vernis, des cellulos, des polyuréthanes, etc. Si tu prends la mauvaise pâte à polir, bah, en gros, tu peux faire des dégâts.
Vraiment.
Tu vois, donc là, j'ai un cellulo sur cette guitare. Donc, pour ce type de guitare, je vais utiliser une crème dans laquelle, généralement, le cellulo, en fait, c'est un vernis qui est un peu poreux. Donc, généralement, on utilise des polishes à base de pétrole désaromatisé ou ce genre de choses. Et qui va rentrer en profondeur dans le vernis, qui va permettre d'enlever la couche de crasse qui est à l'intérieur. Je ne dénature pas ce que j'ai à l'origine.
Ouais. Un petit coup de polish, comme dirait notre cher OSS-117. Je me sentais déjà plus brillante. Bon, de là à briller sous les feux de la rampe, je pouvais aller me rhabiller.
Donc là, tu es en train de remettre la plaque avant.
D'accord. Ce qu'on va faire, c'est ici, je vais reprendre
les vis.
Voilà.
Pour revisser la plaque.
Voilà.
La plaque arrière, tu en fais quoi?
Pour l'instant, je la laisse ouverte. Je vais nettoyer le circuit.
Ça se nettoie, un circuit électrique?
Tu as un petit peu d'humidité, tu as une oxydation qui vient se déposer à l'intérieur des potentiomètres de volume et de tonalité sur le sélecteur, etc. Donc, ça fait des petites crachouilles quand tu branches la guitare.
D'accord, oui.
Voilà, et je vais nettoyer avec ce qu'on appelle une bombe contact, hein, tout simplement... le circuit de la carte du potentiomètre.
Toi, quand tu as un instrument entre les mains que tu dois restaurer,
oui.
Tu prends les photos
avant,
et tu
après.
Fais un petit...
Avant, pendant, après.
Ouais.
Et ce qui m'arrive de faire quand on a des instruments, là par exemple, j'ai eu une Strat de 63. J'ai fait un petit catalogue à la personne parce que c'est pas une guitare que tu démontes tous les jours.
Bah oui.
Tu vois.
Je veux pas paraître jalouse, hein, mais je trouvais qu'on parlait beaucoup des guitares millésimées quand même. J'en rêvais. Moi aussi, avec l'âge, je me bonifierai. Un jour, je sonnerai comme une grande. Je rejoindrai la légende. Je voulais leur montrer ce que j'avais dans le ventre. D'ailleurs, concrètement, j'ai quoi dans le ventre? Comment je suis foutue à l'intérieur?
Là, on a notre plaque. Quand tu enlèves la partie électronique, la plaque,
oui.
Tu as vu qu'on avait une défonce qui avait été faite dans le corps, oui. Aux endroits où on a les micros,
oui.
Et des trous avec des forêts,
oui.
Qui permettent de rejoindre la cavité dans laquelle se trouve le micro à la partie de la cavité électronique, là où se situe en fait tout le schéma qui gère le volume des micros,
oui.
La tonalité, c'est-à-dire atténuée ou pas l'aigu du micro,
oui.
Et sa sortie pour aller à un ampli, puisque à la base, il faut qu'on la branche quelque part. Donc toute cette partie-là, il y a un sélecteur, des volumes, des tonalités et une sortie. Ce schéma-là, c'est le schéma de ta guitare. Mmh. Et dessus, tu vas capter à l'aide des micros qui sont positionnés sur ton instrument, les cordes.
Pourquoi deux micros ?
Parce qu'il y en a un qui est positionné très proche du manche, du bout du manche.
Oui.
Et un qui est positionné très proche du chevalet, là où on a la base de position des cordes en bas de la guitare. Oui. Pourquoi ? Parce que plus tu t'approches du chevalet, plus tu as un son étriqué, aigu. Oui. Et plus tu t'approches du manche, plus tu as un son épais et velouté.
Rond. D'accord.
Voilà, exactement. Okay. Ensuite, on a un sélecteur,
oui.
Sur lequel on a câblé les micros.
Oui.
Qui nous permet d'avoir treble, donc l'aigu,
oui.
Le micro qui est proche du chevalet. Au centre, on va avoir les deux micros, donc le chevalet et le manche.
Oui.
Et le rythme, donc le manche. Et derrière le sélecteur de micro, on a les volumes et les tonalités. Alors, on a le volume général du micro treble, le volume général du micro rythme, mmh. Et la tonalité générale du treble et la tonalité générale du rythme.
D'accord.
C'est vraiment un circuit indépendant.
Ouais.
Et après, grâce à ta sélection, tu vas pouvoir dire, tiens, quand je mets le rythme, là, je baisse un petit peu le volume du rythme, par mmh. exemple, que je trouve trop fort, et sa tonalité, je la laisse neutre. Et par contre, quand je vais sur l'aigu, bah là, je vais laisser le micro fort.
Oui.
Et par contre, je vais casser la tonalité. Donc, je vais casser l'aigu du micro pour qu'il ait un son très soir. Et ben, ça, ces réglages-là, tu peux les garder. Et juste avec ton sélecteur, tu vas passer de l'un à l'autre. Et la sortie ira à ton ampli.
Net, clair, fluide, c'était parfait. Je connaissais mes entrailles désormais. Et mon fonctionnement. Restait plus qu'à jouer. Ah là là, j'avais hâte de m'y remettre, d'être à nouveau grattée, d'entendre mon nouveau son. Il y a quand même un truc que je me demandais au moment de m'endormir sur l'établi. Est-ce que j'aurais plu à mes anciens propriétaires, toute remise à neuf, comme ça ?
Le rêve que j'aurais eu pour cette guitare, c'est qu'elle aille le plus loin possible.
Je vous souhaite de longues années de musique.
Aujourd'hui, elle est heureuse de voler de ses propres ailes.
Si on vendait la guitare entièrement rénovée, réparée, avec les micros mis aux bons endroits, les bonnes cordes dessus, je trouverais ça super beau, mais ce serait pas la même guitare.